Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Très bonne matinale du 14 juillet. Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Il est 7h.
C'est relativement bien organisé. Ça fait plaisir quand même de pouvoir garder un feu d'artifice au 14 juillet parce que c'est peut-être le seul qu'on va voir justement.
Un feu d'artifice annulé en effet dans de nombreuses villes comme à Lyon, Strasbourg, sans public comme à Paris, mais maintenu hier soir à Roubaix pour la plus grande joie des habitants. Pas de défilé militaire sur les Champs-Élysées ce matin, mais une parade aérienne et une cérémonie place de la Concorde. Hommage à tous ceux qui ont œuvré pendant la crise sanitaire. Et Emmanuel Macron prend la parole depuis l'Élysée à 13h10. Interview très attendue pour évoquer notamment le plan de relance. Nous appellerons le président de la Confédération des commerçants de France pour savoir ce qu'il attend du chef de l'État. Dans ce journal, l'inquiétude à Marseille où les cas de Covid-19 sont en nette augmentation.
On revient à une situation d'avant le Covid. Donc ce qu'on demande, c'est qu'on puisse être un peu plus strict pour faire en sorte qu'il y ait moins de catastrophes et moins de gens qui soient admis hospitalisés.
Et puis, plus léger, le musée d'Orsay consacre une expo à un peintre français méconnu, James Tissot. Il a pourtant inspiré bien au-delà de l'Hexagone même des réalisateurs américains.
L'une des illustrations qui représente l'Arche d'Alliance, les Tables de la Loi, va servir de modèle à Steven Spielberg pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Indiana Jones.
Votre invité à 7h40, Pierre.
L'armée à l'honneur aujourd'hui en ce 14 juillet. Oui, mais l'armée non pas privatise, elle externalise certains services. Pour en parler, Guillaume Fard, maître de conférence à Sciences Po, il sort ce livre, Le Continuum de Sécurité Nationale. Quelles externalisations pour demain ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zélani.
Les volutes multicolores dans le ciel, le bouquet final qui fait s'extasier tout le monde cette année. Il faudra oublier les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet sont le plus souvent annulés, avec tout de même quelques rares exceptions, comme hier soir à Roubaix, où petits et grands se sont retrouvés sur la grande place pour assister au spectacle. Maximilien Carlier n'avait pas raté ça.
Devant la façade de l'hôtel de ville, Inès, 10 ans, elle a de la buée sur ses lunettes à cause du masque. Son sourire, on ne le voit pas mais on l'imagine.
C'était trop bien. Bah, j'ai vu plein de trucs. Elle allait hyper haut. Elle avait du bleu, blanc et rouge. Plein de couleurs.
Des couleurs, un orchestre et un spectacle pyrotechnique. Le tout avec le masque obligatoire. C'était globalement respecté. Il y a eu quelques rappels à l'ordre de la police municipale.
Mettez le masque tout de suite, monsieur. Voilà. Très bien, merci. C'est le prix à payer pour avoir un feu d'artifice, quoi. Voilà.
Ils ont bien fait de le maintenir.
C'était relativement bien organisé. Ça fait plaisir quand même de pouvoir garder un feu d'artifice au 14 juillet parce que c'est peut-être le seul qu'on va voir, justement.
Car dans la région, il n'y a rien à Lille, par exemple. Mais ici, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, l'a maintenu malgré le risque sanitaire.
Moi, je tenais vraiment à ce que ça se passe en assumant une organisation particulière. Mais aujourd'hui, on a besoin de ces moments de communion populaire.
Et 5000 personnes, jauge maximum, ont assisté à ce feu d'artifice. Les autres l'ont observé derrière les grilles installées autour de l'hôtel de ville. Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et à Paris, le feu d'artifice sera bien tiré depuis la tour Eiffel vers 23h, mais sans public, une très large zone d'exclusion sera mise en place autour du site pour éviter tout rassemblement.
Et pour les mêmes raisons, le défilé militaire du 14 juillet à Paris prend une autre physionomie, ni blindé, ni troupe à pied sur les Champs-Élysées, mais une cérémonie uniquement sur la place de la Concorde.
Oui, sur le thème de la nation engagée, unie et solidaire. Elle sera dédiée à tous ceux qui se sont dévoués pendant la crise sanitaire, notamment les personnels soignants. Dès hier soir, 800 d'entre eux étaient d'ailleurs conviés au Grand Palais, ainsi que des familles de victimes du virus, comme Marie-Joëlle et ses enfants. Son mari, agent de sécurité à l'hôpital d'Amiens, est décédé en avril dernier et sa colère n'est toujours pas retombée.
Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, tout simplement. Effectivement, on remercie le personnel soignant, on remercie énormément les médecins, mais on a oublié un petit peu tous ceux qui sont derrière. Mon mari était agent de sécurité, il allait au-devant. Des personnes agitées, il allait au-devant pour les maintenir, etc. Sans masque, sans rien. Et il a été contaminé et ça lui a coûté la vie. Tout s'est effondré autour de moi. Il était à 7 mois de la retraite. Il n'aurait pas dû décéder du Covid si on avait eu les masques et les protections nécessaires. Et je suis très en colère. Je trouve que le gouvernement a pris cette épidémie de Covid trop à la légère. On nous laisse dans le néant. On nous laisse dans la peine, en fait, et dans le néant. Mais aucune manifestation de ce genre pourra apaiser notre douleur.
Le témoignage recueilli par Romain Oquet pour Europe 1.
Autre temps fort de cette matinée après la cérémonie Place de la Concorde, l'interview d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée, consacrée en grande partie à la relance économique.
Oui, le chef de l'État devrait préciser les grands axes de son plan, un plan qui devrait avoisiner les 430 milliards d'euros avec des mesures notamment pour l'emploi des jeunes.
Bonjour Francis Palombi.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Si vous pouviez adresser une seule demande au chef de l'État aujourd'hui, ça sera laquelle ?
Eh bien, écoutez, ma demande principale, c'est d'abord pédagogie, fermeté pour le respect des règles sanitaires et le port du masque obligatoire, y compris dans les commerces. Soutenir les commerces, continuer à soutenir les petits commerçants, les très petites entreprises les plus fragiles, afin d'éviter les faillites, les pertes d'emplois. Et troisièmement, endiguer la progression constante des grandes plateformes numériques qui créent une concurrence terrible pour le commerce physique et notamment pour le commerce de proximité. Maîtriser ce développement des grands players internationaux qui envahissent le pays et c'est très préjudiciable pour la concurrence avec les petites entreprises notamment.
Alors on comprend évidemment que vous soyez très soucieux face à cette concurrence d'Internet, hein, mais est-ce que c'est vraiment possible de la contrer avec les habitudes qui ont été prises pendant le confinement ?
Eh bien, là, il y a deux méthodes pour la contrer. D'abord, pour la création, l'implantation, nous demandons un moratoire. La Convention citoyenne l'a demandé et nous demanderons à ce que le président de la République accepte le gel de toutes ces implantations et leur appliquer les règles du jeu de demande d'autorisation et de taxes comme les autres formes de commerce. Ça, c'est très important. Et bien sûr, continuer à soutenir à outrance la mise en place du numérique dans les villes, sur tout le territoire, afin que les commerçants, y compris les petits, adhèrent au numérique, se servent du numérique, créent des plateformes locales pour justement opposer une alternative aux grands players internationaux.
Alors bien
comme
sûr,
Amazon et autres.
Bien sûr, relancer le commerce, c'est très important pour tenter de sauver, vous l'avez dit, hein, des petits commerces qui vont peut-être mettre la clé sous la porte. Mais ce n'est pas facile d'inciter les Français à acheter alors qu'ils sont tellement inquiets pour leur propre avenir avec tous les plans sociaux qui pourraient arriver à la rentrée.
Voilà. Alors justement, il y a un plan commerce qui a été quand même élaboré par, entre autres, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher et son successeur qui est des nôtres, qui est un homme des très petites entreprises, Alain Grisé. Nous demandons à l'État de soutenir médiatiquement, de créer des grosses campagnes médiatiques pour inciter les consommateurs, les citoyens à revenir vers les centres-villes qui ont été très à l'épreuve pendant ces derniers mois.
Merci beaucoup Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'avoir été l'invité du journal de 7h sur Europe 1.
Et pour les annonces d'Emmanuel Macron, rendez-vous en direct sur notre antenne à partir de 13h. Hier soir, dans son discours aux armées, le chef de l'État a voulu rassurer les militaires inquiets pour leur situation budgétaire.
Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour.
En 3 ans, les relations entre Emmanuel Macron et l'armée ont évolué, passant de la confrontation directe à une forme de distance cordiale.
Et oui, on se souvient du fameux « Je suis votre chef » du 13 juillet 2017, une sentence du nouveau président de la République juste avant de décapiter le général de Villiers, le chef d'état-major qui contestait ouvertement les choix budgétaires du nouveau pouvoir. Emmanuel Macron, jeune président, optait ainsi pour la manière forte et installait sa pratique verticale du pouvoir. 3 ans plus tard, les relations ont changé entre le président et les militaires. C'est une forme de distanciation polie et républicaine. On est passé de « je suis votre chef » à « je respecte votre fief ». On va dire les choses comme elles sont. Contrairement à ses prédécesseurs, les affaires militaires ne passionnent pas outre mesure quand même Emmanuel Macron. D'où l'importance des mots rassurants hier donc, du président. Car l'état-major craint que des projets d'adaptation soient torpillés par la crise sanitaire, qu'il s'agisse du nouveau porte-avions ou des nouveaux défis de la nouvelle bataille spatiale promise par le chef de l'État l'année dernière. Quant à l'opération Barkhane au Sahel, on sait qu'elle coûte malheureusement en hommes, mais aussi en matériel. C'est pourquoi les armées, effectivement, sont satisfaites aussi de leur ministre, Florence Parly, qui réussit dans son rôle de bouclier budgétaire face aux assauts de Bercy, toujours en recherche de crédits à rogner. Donc le signe de cette relation normalisée, les militaires ont accepté la décision du chef des armées de sacrifier sur l'autel sanitaire leur défilé devant les Français. Un sacrifice important parce qu'en fait, ils se préparent toute l'année pour honorer ce lien entre la nation et l'armée. Donc politiquement, le président a du mal à faire l'unité nationale, mais les militaires aujourd'hui lui fournissent au moins la possibilité
d'attendre la Concorde.
Votre fait militaire, Mickaël Darmon, tous les jours, dans la matinale d'Europe 1.
Il est 7h10.
On a beaucoup parlé de la Mayenne, où une grande campagne de dépistage a commencé hier, mais l'inquiétude monte désormais dans le sud de la France, à Marseille.
Et oui, de nombreux médecins s'alarment d'une recrudescence du nombre de cas ces 10 derniers jours, en pleine saison touristique, avec un certain relâchement, comme un peu partout en France. Les professionnels de santé réclament maintenant un renforcement des contrôles. Écoutez le reportage de Nathalie Chevance.
Des terrasses bondées, des serveurs qui parfois ne portent plus de masque, et sur le littoral des serviettes aux touche-touche, relâchement général des Marseillais et des touristes. Yazid Attala, coordinateur de l'association Santé Environnement pour tous, demande un renforcement du dépistage sur les sites stratégiques.
Oui, c'est un cri d'alarme. Les plages mobiles qui étaient supposées être mobiles sont fixes. Donc c'est inquiétant aussi à ce niveau-là, parce que Marseille est une ville hyper touristique. Et on se serre la main maintenant, on se fait la bise, donc on revient à une situation d'avant le Covid. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait quand même un contrôle qui se fasse au niveau des aéroports, qu'on puisse être un peu plus strict pour faire en sorte qu'il y ait moins de catastrophes et moins de gens qui soient admis hospitalisés.
Prise de température souhaitée aussi à l'embarquement dans les ports, avec en parallèle le redéploiement de brigades mobiles auprès de la population pour de la prévention.
Il faudrait un médiateur en santé, un professionnel de santé aussi, qui puisse aller vers les gens et puis leur rappeler les gestes barrières, distribuer des masques pour des gens qui n'en ont pas, des gels hydroalcooliques. Donc nous avons déposé un dossier en ce sens auprès de l'Agence régionale de santé. Nous avons quasiment une équipe mobile par arrondissement et nous attendons un retour. A priori, il devrait être favorable.
Et ces brigades devraient de nouveau tourner dès le 1er août, d'abord dans les quartiers nord, avant de se généraliser. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et une ministre en visite surprise sur le site de la rêve partie clandestine qui rassemble quelques 5000 personnes depuis samedi soir dans la Nièvre. Il s'agit de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle est venue saluer les forces de l'ordre hier soir. Forces de l'ordre qui assurent la sécurité du site et elle a bien sûr rappelé l'importance des gestes barrières.
Et l'OMS d'ailleurs s'inquiète d'un trop grand nombre de pays qui prennent la mauvaise direction face à la pandémie. Ça va aller de pire en pire, prévient le directeur de l'Organisation mondiale de la santé.
Et d'ailleurs, la Californie décide de fermer à nouveau certains commerces, restaurants, bars, cinémas, coiffeurs, ainsi que les lieux de culte. À Los Angeles, les écoles ne rouvriront pas leurs portes comme prévu à la mi-août.
Mireille Knoll, tuée parce qu'elle était juive. Les juges d'instruction retiennent finalement le caractère antisémite du meurtre de cette femme de 85 ans. C'était en 2018 à Paris.
Oui, deux suspects vont donc comparaître devant les assises. Une satisfaction pour Daniel Knoll, le fils de la victime.
Ce qui était important pour nous, c'était le caractère antisémite reconnu par le parquet, alors que nous, au départ, nous n'en étions absolument pas sûrs. On avance vers la vérité et on espère de tout cœur que beaucoup de Français partageront avec nous notre tristesse, nos émois et notre stupeur devant ce qui est arrivé à un moment. Ce qui va être important, c'est que ces deux criminels soient en face de nous, confrontés, et si jamais ils pouvaient avoir un petit moment de justice en eux, qu'ils puissent reconnaître leur crime. Vous savez, soulagement, c'est quand on aura vraiment le juge qui définira leur peine, en espérant qu'elle sera maximum.
Daniel Knoll, joint par Salomé Legrand. Et puis c'était l'une des 10 cibles prioritaires dans le monde pour les enquêteurs qui luttent contre la pédopornographie sur Internet. Un Français de 40 ans a été arrêté près de Bordeaux. Un père de famille inconnu de la police soupçonné d'avoir administré des sites pédopornographiques sur le Darknet, la partie cryptée d'Internet. Il aurait aussi abusé de deux de ses enfants qu'il mettait en scène et filmait. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Europe 1, il est 7h13.
C'est le moment où jamais de profiter de l'absence de touristes étrangers pour visiter les plus belles expos à Paris dans les meilleures conditions. Et ce matin, on vous emmène au musée d'Orsay à la découverte du peintre français James Tissot.
Oui, c'est une rétrospective d'une centaine d'œuvres intitulée L'ambigu moderne. Cet artiste du 19e siècle, ami de Degas, parti pour Londres puis revenu à Paris, est un peintre peu connu du grand public, en tout cas en apparence, Diane Chénouda.
On connaît tous Tissot sans le savoir. On connaît tous son portrait de femme à l'air mélancolique en jupe noire, gilet rouge, qui fait la couverture de poche de Madame Bovary. Paul Perrin, commissaire de l'expo.
C'est un des premiers chefs-d'œuvre de Tissot, un très beau portrait. On voit cette femme, cette jeune fille en fait même, qui est presque une adolescente. Elle est dans une chambre un peu, on dirait, confinée aujourd'hui. Et elle a l'air un peu enfermée dans cet univers. Et évidemment, il y a ce regard vers nous, une forme de, à la fois de mélancolie, de malice aussi, et puis peut-être une volonté de s'échapper de cette cage.
Il peint les femmes, la mode, et il va beaucoup inspirer le cinéma avec sa Bible illustrée qui deviendra un best-seller en 1900.
On retrouve ensuite des références à Tissot dans le cinéma hollywoodien des années 50, le film Ben-Hur par exemple, jusqu'à la fin du XXe siècle, puisque l'une des illustrations qui représente l'Arche d'Alliance, les Tables de la Loi, va servir de modèle à Steven Spielberg pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Indiana Jones. C'est exactement le même modèle qui a servi de référence donc pour créer l'Arche d'Alliance dans le film d'Indiana Jones.
Un peintre à découvrir qui a aussi marqué Martin Scorsese ou Jane Campion pour Portrait de femme.
À l'expo James Tissot, l'ambigu moderne est à voir tout l'été au musée d'Orsay jusqu'au 13 septembre.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani qu'on retrouve bien sûr à 8h.